Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cathy Richard est avocate, elle a 52 ans. Spécialisée dans le droit pénal, elle est habituée à intervenir dans des affaires criminelles ou de terrorisme. Le 16 mai, c'est elle qui s'est retrouvée dans la rubrique Faits divers du Parisien en tant que victime. Depuis des années, elle est harcelée par un ancien client, un homme de 35 ans, considéré comme dangereux, qui menace de la tuer. Après un nouvel épisode, très récemment, Cathy Richard a choisi de parler. Elle témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
Donc ensuite, ceci.
Cathy Richard est avocat. Elle m'a donné rendez-vous un vendredi soir à Pontoise, dans son cabinet, où sont accrochés certains dessins d'elle en train de plaider. Le parquet grince, des rideaux rouges et dorés encadrent les immenses fenêtres, et ses collaborateurs passent une tête dans son bureau tour à tour pour lui souhaiter un bon week-end. Pour elle, cet entretien est une énième soirée passée sur son lieu de travail.
Je suis avocate depuis 26 ans et j'ai 3 enfants. Ils ont 17, 14 et 14. Depuis toute petite, je voulais m'occuper d'enfants en difficulté. Donc je voulais absolument être juge des enfants. Et j'ai passé le concours de la magistrature pour lequel je me suis mise une grosse pression et que j'ai loupé. Et en revanche, j'ai passé l'examen du barreau sur lequel je m'étais mise aucune pression et que j'ai réussi. Je pense qu'on est dans le cœur battant de l'humanité. Et on a une vraie fonction. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 26 ans que je suis avocat. J'ai vraiment le sentiment que si je meurs demain, je serais pas venue sur Terre pour rien. C'est super valorisant. Et je trouve que c'est une vraie raison de vivre.
Maître Richard a fait son collège et son lycée dans le Val d'Oise. Au moment d'entrer à l'université, tout le monde lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille à Assas, connue comme la star des facs de droit.
J'avais vu que je pouvais aller en voiture à Villetaneuse et que c'était la proximité, et j'ai choisi la proximité. Ce qui ne m'a pas empêché ensuite de faire ce qu'on appelait avant des DEA, hein, et master je ne sais pas combien, de droit pénal et sciences pénales et de sciences politiques au Panthéon Assas, justement. Et pour m'installer ensuite, ça a été pareil. On me disait, oh là là, mais un avocat, il doit être à Paris. Moi, je dis, non, moi, je vais être dans le Val d'Oise. Je ne veux pas spécialement être à Paris. Alors maintenant, j'ai un cabinet secondaire à Paris, mais pour moi, l'essentiel, c'était d'être là où j'avais envie d'être, quoi.
C'est donc dans son cabinet du Val d'Oise qu'en 2011, une fratrie de 2 femmes et 1 homme fait appel à elle.
2 jeunes filles viennent me voir en m'expliquant que leur papa a été retrouvé mort dans l'Oise, noyé, et que cette affaire était classée comme étant une mort entre guillemets naturelle, enfin accidentelle. Elles m'expliquent qu'elles se sont rendues, elles, sur les berges de l'Oise, et qu'en faisant quelques recherches, elles ont retrouvé le dentier. Hein, l'appareil dentaire de leur père, qui était cassé d'ailleurs. J'appelle l'Institut médico-légal, j'essaie d'en savoir plus. J'apprends notamment qu'il a été retrouvé dans l'Oise, mais il était nu avec ses chaussettes. Donc cette histoire de nu avec des chaussettes, ajoutée au fait que son dentier était sur les bords de l'Oise et cassé, m'ont fait dire que c'était pas du tout, enfin ça ressemblait pas à un accident. Et en bougeant, j'ai obtenu que soit ouverte une information judiciaire, sachant que l'individu en question, cet homme, était un homme qui était alcoolique, marginal, qui vivait dans un foyer. Enfin bon, c'est vrai qu'il y avait, une certaine forme d'amertume. Amertume plutôt bien digérée, j'allais dire, par ses filles. Mais déjà beaucoup plus mal digérée par Jonathan. Jonathan, c'est le frère qui n'acceptait pas, et je peux le comprendre, hein, que les policiers avaient dit non, il est tombé en l'Oise, alors qu'il suffisait de regarder 5 minutes pour trouver son dentier. Enfin bon. Donc c'est vrai qu'il le vivait déjà mal.
Rapidement, l'enquête révèle que le père de Jonathan n'était pas seul le soir de sa mort. Il a bu avec 4 autres hommes qui reconnaissent l'avoir frappé et déshabillé. Mais ils soutiennent qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne sont pas envoyés en prison et attendent donc leur procès libre.
Donc ça a été aussi assez dur à vivre, surtout pour Jonathan. Et ça aussi, je peux le comprendre. Parce que c'est vrai que, je le dis, si l'individu décédé était préfet ou magistrat, ou homme politique, ou n'importe qui d'autre, on aurait sans doute pris plus les choses à cœur. Ça n'engage que moi. D'autant qu'à l'époque, c'était tout à fait ce que disait Jonathan, déjà. Et que moi, en réalité, je calmais complètement le jeu en lui expliquant que, de toute façon, la détention, c'était vraiment l'exception, qu'il y avait des garanties de représentation, enfin bon, bref. C'est vrai que je me suis positionnée dans une posture de défense de la justice, un peu contre lui, entre guillemets, mais bon, en disant « mais non, mais c'est normal, mais non, mais ça veut rien dire, etc. » Et puis l'instruction a duré éternellement. Enfin, parce que je pense que c'était enquiquinant pour ces juges qui se sont succédés dans ce dossier, à se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les renvoie quand même devant la cour d'assises, mais on n'a rien ? Ou est-ce qu'on les renvoie devant le tribunal correctionnel juste pour des violences, alors que finalement il est mort ? Bon, donc, en plus, moi j'ai quand même pas mal lutté, parce que c'est vrai que les juges avaient tendance à dire on va les renvoyer devant le tribunal correctionnel. Et je disais, c'est complètement anormal, on a quand même 4 personnes qui reconnaissent qu'ils étaient ensemble, qui lui ont tapé dessus. Bref, le temps a passé. On voit qu'on est aujourd'hui en 2020, les faits ont lieu fin 2011. Et donc petit à petit, Jonathan a commencé à développer, je dirais, cette fameuse paranoïa, cette espèce d'idée qu'il y avait des réseaux, que c'était alors la franc-maçonnerie, les pédophiles, les machins. Et on se retrouve avec toutes les problématiques qu'entraînent ces dossiers qui durent beaucoup trop longtemps, enfin, c'est presque inhumain. Et donc, plus ça va, plus je pense que ça a été compliqué pour lui, et plus ça va, plus il a monté des trucs dans sa tête, quoi.
En attendant leur procès, ils ne sont donc pas envoyés en prison et ressortent libres. Jonathan prend alors pour habitude d'appeler le cabinet, d'insulter tout le monde, et même de s'y rendre physiquement, et de se montrer violent. Les collaborateurs de Cathy Richard sont vite inquiets, mais quand elle est là, elle arrive à peu près à le calmer.
Ce garçon, il a un côté attachant. Je pense qu'en plus, de son côté, il y a une forme d'identification à son père, parce qu'il faut reconnaître qu'il suit le même chemin, d'alcoolisme et de marginalité. Et donc, ça lui renvoyait le peu de cas que la société faisait de lui-même, le peu de cas qu'il avait l'impression que la société faisait de son père. Pas forcément totalement à tort, je le répète. Même si le dossier était effectivement compliqué.
En venant sonner au domicile de Cathy Richard, Jonathan franchit un nouveau cap, en 2016.
Je l'ai repris de voler un peu après, en lui disant que ça se faisait pas, qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Et puis, les choses semblaient s'être tassées. Puis ensuite, il est revenu sonner chez moi. Alors, il avait mis son œil collé sur le vidéoprojecteur, là. Donc, les enfants, ça les avait terrorisés de voir son œil comme ça, en gros. Ensuite, un jour, quand maman rentrait chez elle, après avoir gardé les enfants, parce que souvent, je rentre très tard, quand même, elle l'a vu en bas de chez moi, dans la rue, plus bas. Elle savait qu'il tournait dans le coin, quoi. Puis, parfois, il était venu sonner dans la nuit, aussi, à quelques reprises. Alors, j'ouvrais la fenêtre. Je lui disais, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter, il faut rentrer. Et puis, un jour, il avait sonné dans la nuit, à 1h du matin. Il avait sonné à 4h du matin. Et il revient en fin de journée. Et là, j'étais là. Et donc, pour la première fois, je me suis fâchée. Et pour la première fois, je lui ai dit, stop, maintenant, ça suffit. Encore une fois, et moi, j'interviens plus dans le dossier. Je me suis dit, je marque un coup, quoi. Je me fâche. Et puis j'ai refermé la fenêtre. J'avais l'impression qu'il avait compris. Puis un quart d'heure après, ça a ressonné. Et là, en ouvrant la fenêtre, j'étais sûre que c'était lui. Donc là, j'étais prête à crier. Et puis je vois 2 policiers qui me disent « Madame, nous avons interpellé un individu qui a dégradé votre véhicule. » Et quoi, mon véhicule ? Alors effectivement, j'avais ma voiture garée devant la maison, qui avait 6 mois. Il l'avait démontée, mais démolie. Donc, il avait cassé les fenêtres, les phares, il y avait des trous dans la carrosserie partout. Et en fait, les policiers avaient été appelés par d'autres personnes dans la rue parce qu'ils avaient remonté la rue en continuant à dégrader d'autres véhicules. Alors, je me souviens parce que je suis sortie, il était dans la voiture de police et je suis allée le voir dans la voiture de police. Et je lui ai dit, mais Jonathan, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et là, il me dit, je sais pas, c'est une connerie, je sais pas.
Embêté de devoir en arriver là, Cathy Richard va faire une déposition au commissariat et cesse de fait de représenter Jonathan.
J'avoue que j'ai beaucoup de compassion pour lui car je comprends qu'il souffre de cette situation. J'ai été pour cela très tolérante.
Le parquet choisit alors de convoquer Jonathan en novembre pour une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un mode un peu rapide et un peu bienveillant selon Cathy Richard.
Je pense cependant qu'il souffre d'un problème psychiatrique et qu'il peut être dangereux pour lui-même et pour autrui.
Jonathan ressort donc libre en attendant la date de cette audience fixée au 10 novembre 2016.
Ce qui fait qu'en fait, dès septembre, il recommençait. Fin septembre, il vient au cabinet et il profère des menaces, comme quoi il va mettre une bombe dans le cabinet et comme quoi il garde une balle là pour moi. Enfin, donc il se fait interpeller. Et cette fois-ci, il comparaît en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui ordonne une expertise psychiatrique. Et il précisait que cet individu était dangereux. Donc, le tribunal a déclaré responsable et il a été hospitalisé en psychiatrie. J'étais à l'audience. Et là, il disait au tribunal, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, c'est la seule qui m'a aidée, quoi. C'est la seule qui était là pour m'aider. Donc, je m'excuse vraiment, je vous demande pardon, etc. Puis après, il m'avait écrit une longue lettre dans laquelle il me disait que, à travers moi, il voulait alerter la juge d'instruction. Parce que c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que, il est à la rue, comme sont d'ailleurs quasiment à la rue les quatre personnes qui ont agressé son père. Il les connaît parfaitement bien, il sait qu'ils sont libres, et il ne s'en est absolument jamais pris à eux. Et dans ce courrier, je comprends en fait que, au départ en tout cas, je suis un vecteur pour faire réagir, quoi.
Jonathan, considéré comme très dangereux, est envoyé en hôpital psychiatrique et Cathy Richard n'en entend plus parler pendant des mois. Jusqu'en avril 2019.
Je vois un papier blanc dans mon portail. Ça me paraît bizarre, j'attrape ce papier. Je vois sur ce papier qui est indiqué « Là, je rigole plus, justice de merde ». Et puis, c'était signé Jonathan et il y avait un numéro de téléphone. Donc, je préviens la police parce que je me dis « Mince, enfin, toujours quoi ». Et la police lui a donné rendez-vous le lendemain à mon cabinet. Et il l'interpelle devant mon cabinet, alors qu'il pense venir me voir. Il l'interpelle devant mon cabinet et il a des balles. Il a 5 balles de 12 mm sur lui. Alors il n'a pas d'arme, mais il a 5 balles de 12 mm sur lui.
Jonathan est jugé cette fois en comparution immédiate. Et à nouveau, l'expert psychiatre le qualifie de très dangereux et d'irresponsable pénalement. Comme la première fois, il s'excuse et retourne en hôpital psychiatrique en n'ayant cette fois plus le droit d'approcher Cathy Richard, son domicile ou son cabinet, pendant 5 ans.
Alors c'est vrai que le fait qu'un deuxième expert psychiatre dise qu'il était dangereux, j'étais soulagée que le deuxième prenne la mesure du personnage. Et d'un autre côté, enfin, ça enfonçait un deuxième clou dans mon cercueil quand même. Parce que du coup, il y en avait quand même un autre qui disait « il faut s'en méfier ». Et puis effectivement, ben, j'ai plus eu de nouvelles pendant un certain temps, puisqu'il a été hospitalisé... en psychiatrie, en mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il faut reconnaître que je n'y pensais plus vraiment.
Si Cathy Richard raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que cette année, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai, alors que nous étions en plein confinement, on a encore sonné chez elle. Elle a ouvert la fenêtre, rien vu, mais le lendemain, la gendarmerie l'a contactée pour lui conseiller d'aller porter plainte contre Jonathan. Il les avait appelés près de 20 fois dans la nuit pour les prévenir qu'il allait la tuer.
Je suis retournée déposer plainte. Mais là, j'avoue que j'étais abattue, vraiment. J'étais abattue parce que j'avais vraiment pensé que c'était derrière moi. Là, j'ai un policier qui me dit « Mais pourquoi vous ne déménageriez pas ?» Je lui dis « Mais même si je déménage, je suis avocat. Enfin, il sait où est mon cabinet aussi. » Il me dit « Mais vous ne pouvez pas changer de barreau ?» J'ai dit « Oui, mais je peux changer de barreau. Mais même si je change de barreau, tant que je reste avocat, je resterai trouvable. » Voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire sans fin, ou alors j'arrête d'être avocat, ce qui n'est pas du tout dans mes intentions. De toute façon, je pense qu'un jour il me tuera. Je sais qu'il va me tuer. Mais je voudrais que ce soit le plus tard possible. Je voudrais finir d'élever mes enfants, on n'en sort pas. Même tant de temps après, il reste obsessionnel, il reste focalisé sur moi. Mes enfants étaient vraiment là, ils ont été vraiment perturbés. J'ai mon fils aîné qui avait un jour trouvé une espèce de vieille machette rouillée. Alors il a mis du scotch autour, il a essayé de l'aiguiser, il l'avait mis à côté de son lit. L'autre avait fait une matraque avec un bâton, c'est pareil. Et je me suis rendu compte que voilà, ça n'allait pas. Je sais que les policiers ont patrouillé pas loin de la maison dans la nuit suivante. Tout était prêt. Quand le policier m'a appelé pour me dire il est interpellé, on était prêt à partir.
Quelques jours plus tard, Cathy Richard s'est rendue avec sa fille au commissariat pour évaluer les retentissements psychologiques qu'avait cette affaire sur elle. La psychiatre qui les a vus avait examiné Jonathan juste avant.
Elle a d'abord reçu ma fille, qui a dû lui dire qu'elle avait peur. C'est vrai qu'elle était quand même choquée, puis surtout qu'elle s'en souvient depuis petite. Parce qu'effectivement, elle était petite quand il y avait ces histoires d'œil. Et donc, quand l'expert m'a reçue, ses premiers mots, je pense que ça, je m'en souviendrai toujours, c'est « vous avez raison d'avoir peur ». Le problème, c'est que lui, il est dans le passage à l'acte.
Comment est-ce que vous pouvez essayer de vous protéger quand même de lui ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?
Ça fait 26 ans que je traite des dossiers criminels. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et heureusement, parce qu'en pensant que ça n'arrive qu'aux autres, comme la maladie, comme les accidents, on vit heureux, enfin je veux dire, on vit libre d'esprit. Si on avait présent à l'esprit tout le temps tout ce qui peut nous arriver, la vie serait difficile quand même. Donc, je pense que en moi, j'ai cet élan vital qui fait que j'arrive pas à voir vraiment ressentir la peur, ni à me dire il va m'attaquer, etc. Mais d'un autre côté, j'ai aussi toutes les démonstrations que ça arrive. Voilà, il faut être clair, ça arrive. Donc, a priori, un jour ou un autre, il ressortira de psy. Et je vois pas comment les choses peuvent tourner bien. Il suffit qu'il ait un couteau sur lui et puis ça ira vite. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avoue que j'ai un espoir. J'ai l'espoir qu'il parte en UMD. C'est les unités pour malades difficiles ou dangereux, qu'il soit en milieu fermé et puis pour très 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 longtemps. Je n'y crois pas beaucoup puisque dès qu'il est stabilisé, il n'y a plus de raison de le garder. Le problème, c'est qu'en UMD, on y envoie ceux qui sont passés à l'acte. Donc, il ira en UMD quand il m'aura tué.
Claudia, l'affaire du père de Jonathan a évolué très récemment, il y a seulement quelques jours.
Oui, le juge a finalement décidé que les quatre hommes ne seraient pas renvoyés devant une cour d'assises. Donc, ils vont être jugés en correctionnel pour violence ayant entraîné 5 jours d'ITT. Ce qui est, comme le disait Maître Richard, un peu absurde, puisque en fait, cet homme est mort. Et elle pense surtout que ça ne va pas du tout calmer Jonathan, au contraire.
Est-ce que Cathy Richard regrette d'avoir pris ce dossier en 2011 ?
Non, elle dit évidemment que s'il lui arrive quelque chose, ça la ferait un peu culpabiliser, surtout pour ses enfants, mais c'est son métier de défendre les gens, et si elle ne l'avait pas fait, la mort de cet homme serait restée une mort accidentelle, alors que manifestement, il y a quand même eu d'autres choses qui se sont passées, et pour elle, ça aurait vraiment été ça le pire, et ça aurait été une erreur judiciaire et une grosse injustice.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Genest et Mathias Ardoy. Réalisation Benoît Laure.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.